Samedi 16 mai 1925. Selon le plan prévu, avant que le diacre ne me vole mon livre et nous fausse compagnie, nous devions nous réveiller au milieu de la nuit, puis, après avoir bu un thé chaud et nous être habillés à la lueur de nos lanternes sifflantes, nous mettre en route pour le camp 5 vers 4 heures du matin. Une fois J.C., Reggie et moi enfoncés dans nos sacs de momie, je règle donc ma montre pour qu'elle me réveille à 3h30. C'est un bel objet coûteux que mon père m'a offert à ma sortie de Harvard, et quoi qu'il se passe sur l'Everest, je souhaite ardemment qu'il ne lui arrive rien. Elle possède un petit mécanisme ingénieux grâce auquel un minuscule marteau métallique se met à vibrer à l'intérieur à l'heure programmée. Je range la montre dans une poche de poitrine et à 3h30, le mécanisme vibre contre mon cœur. Malgré ma fatigue, je me réveille aussitôt. Curieusement, j'ai réussi à dormir un bon moment pendant ces quelques heures dont nous disposions. Une fois, Jean-Claude m'a secoué en murmurant « Jake, vous ne respirez plus !» Et j'ai pris une bouffée d'air anglais de la bouteille que nous partagions. Pour le reste, je n'avais jamais aussi bien dormi en altitude. Au camp 3, le seul fait de me retourner me demandait un effort tel que je me réveillais en haletant et je n'arrêtais pas de rouler sur des plaques de ma propre haleine gelée. Mais ici, 500 mètres plus haut, j'ai dormi comme un bébé. Finalement, nous ne partirons pas au camp 5 ce matin. Les murs de la tente continuent d'onduler et de battre, et j'entends distinctement le crépitement du grésil sur la toile. Enfin, une journée de repos, me dis-je avec bonheur en me renfonçant dans mon sac de couchage. Alors même que la partie la plus consciente de mon cerveau sait qu'il ne ferait pas bon s'attarder un jour de plus à cette altitude. Puis quelque chose ou quelqu'un fait irruption dans la tente et j'essaie de me redresser. Je dois m'y reprendre à 3 fois avant de réussir à m'asseoir. Reggie n'est plus là. Parti aux toilettes, me dis-je, avant de me rendre compte que son sac de couchage n'est pas là non plus. C'est le diacre qui vient d'entrer au milieu d'un tourbillon de neige et d'une rafale d'air froid. Sans les bandes rouges qu'il a enroulées autour des manches de sa parka en duvet, je ne le reconnaîtrais pas. Il est intégralement couvert de neige et de glace, son bonnet d'aviateur, sa cagoule et ses lunettes sont bordées de givre, et ses énormes moufles crissent quand il les retire. Il porte un appareil à oxygène sur le dos, mais pas le masque sur le visage, et je suis sûr que le régulateur est fermé. « Il fait frisquet ce matin, » dit-il à bout de souffle. Je sors ma montre. Il est 7 heures à peine passées.
« Où étiez-vous, Richard ?»
Je remarque que la barbe de J.C. est bien plus belle que la mienne, qui de surcroît me démange.
« Je suis seulement allé voir si l'arête nord était praticable, » répond le diacre. « Elle ne l'est pas. »«
À cause de la neige ?»«
Du vent. » Il souffle à au moins 190 km à l'heure. J'ai dû tellement me pencher en avant en essayant de gravir les dalles que mon nez touchait presque le granit.
« Vous avez grimpé seul ?» demande Jean-Claude, une note de reproche dans la voix.
« Vous nous le déconseilleriez, Richard ?»«
Je sais. »
Le diacre vient d'installer le réchaud Una dans le vestibule extérieur de la tente et il essaie de craquer une allumette de ses doigts gelés. Le vent l'éteint à chaque tentative.
Et merde,
lâche-t-il avant d'apporter le réchaud à l'intérieur, une autre violation du protocole de sécurité. J'allume le méta à sa place et il met une casserole de neige à fondre dans l'endroit le plus abrité du petit vestibule.
Je ne crois pas que nous atteindrons le camp 5,
dit-il en ouvrant ses couches extérieures de vêtements comme si la température pourtant négative sous la toile était celle d'un climat tropical.
« J'ai passé la tête dans leur tente pour réveiller tous nos camarades, » poursuit-il. « Reggie est debout depuis un certain temps, en train d'essayer de réparer un réchaud qui refuse de fonctionner. » Il semble que le matin ait apporté son lot de maux de tête, de problèmes respiratoires, d'orteils glacés, de gorges irritées et de mauvaise humeur.
Le diacre sourit derrière les cristaux de glace accrochés à sa barbe naissante.
« Je crois que cette belle chienne de montagne nous a déclaré la guerre, mes amis. Que Dieu, les dieux, le destin ou le hasard
fasse que nous soyons à la hauteur du défi. » Soudain, il retire ses moufles et ses gants de soie et me tend sa main droite bleuie. « Jake, je vous présente mes excuses les plus plates et les plus sincères pour avoir jeté votre livre hier soir. Je me suis comporté comme un idiot. C'est impardonnable. Je vous en achèterai un nouvel exemplaire que j'essaierai de vous faire dédicacer par Bridges dès que nous reviendrons de cette aventure. » Robert Bridges étant le poète lauréat anglais depuis 1913, j'estime que c'est une sacrée proposition. Ne sachant que dire, je me contente de serrer sa main tendue. J'ai l'impression de saisir un morceau de bœuf congelé. Reggie entre alors et referme les lanières du battant. Elle est vêtue de duvet de pied en cap. La seule chose qui pourrait l'empêcher d'escalader la montagne serait la paire de hautes bottes fourrées qu'elle a aux pieds et que certains d'entre nous préfèrent enfiler dans les camps le temps que les bottes d'alpinisme sèchent.
« Tenzing Bhotia est malade, »
dit-elle sans préambule et sans nous saluer.
« Il n'a pas arrêté de vomir ces 6 ou 7 dernières heures. Nous devons le redescendre. Au moins au camp 3, mais plus bas serait préférable. »
Le diacre soupire. Nous avons une décision difficile à prendre. Au camp 4, nous nous affaiblissons d'heure en heure, mais nous sommes bien placés pour rejoindre le camp 5 sur l'arête nord en cas d'accalmie. Sauf qu'il peut aussi ne pas y en avoir avant une semaine. Et si nous redescendons tous, nous serons confrontés à des problèmes de logistique. Toutes les tentes du camp 3, au pied du mur de glace, sont déjà occupées par les Sherpas. Certains souffrent probablement de lassitude des montagnes et devront peut-être être évacués au camp de base. Nos charges, destinées aux camps 5 et 6 et à notre recherche de Percival là-haut, sont éparpillées entre les camps 1 et 4. Et le programme de portage par les Sherpas, que nous avions soigneusement planifié, est déjà bouleversé. Je sais que les 3 précédentes expéditions ont rencontré ce même problème, malgré une organisation minutieuse et un très grand nombre de porteurs. Mais c'est une maigre consolation pour nous, serrés dans une tente Whymper balayée par le vent à plus de 7100 mètres d'altitude.
« Je vais escorter Tenzing, »
dit J.C.
Et je prends Tejbir Norgay avec moi. Tejbir va bien,
dit Reggie.
Il est juste fatigué. J'aurai besoin de son aide pour descendre Tenzing avec les cordes. Nous l'emmènerons au camp 2, voire au camp 1 si nécessaire.
Il ne nous restera que 3 jumards pour monter ou descendre les cordes fixes si l'on doit vous suivre ou installer des cordes plus haut, dis-je. J'ai l'impression d'avoir l'esprit cotonneux.
Je suis encore capable de faire un nœud autobloquant,
déclare Reggie. Je me retiens de me frapper le front. C'est fou comme on devient vite dépendant de ces nouveaux joujoux. Un nœud autobloquant sur des cordes fixes est sans doute plus sûr en descente que l'instrument de JC. Pas aussi pratique, mais d'une efficacité éprouvée. Bon, nous devons encore décider combien de temps nous restons ici, dit le diacre, s'adressant à Reggie et moi derrière ses moustaches gelées. Nous utilisons les bouteilles d'oxygène pour nous endormir et lorsque nous nous sentons patraque la nuit. Mais c'est une stratégie perdante de demeurer ici à gaspiller de l'air anglais. Cela nous obligera à faire transporter de nouveaux appareils à oxygène pour le moment où nous monterons au camp 5 et 6. Sans parler de tenter le sommet ou de chercher sérieusement Lord Percival et Meyer. Et nos réserves ne sont pas illimitées. Que devons-nous faire, à votre avis? Je suis extrêmement surpris que le diacre nous consulte. Ses antécédents militaires, autant que son caractère, le poussent en général à commander dans toutes les situations. Et à Darjeeling, nous sommes tous tombés d'accord, Reggie comprise, sur le fait qu'il prendrait toutes les décisions en matière d'alpinisme. Dans le bref silence qui suit, J.C. dit...
Je crois pouvoir descendre Tenzing aussi bas que nécessaire et remonter au camp 4 avant la nuit. J'en profiterai aussi pour transmettre vos ordres à Passang, afin que les Sherpas puissent reprendre le portage dès que le temps s'éclaircira un peu. Vous êtes capable de faire toute la descente puis l'ascension dans ce blizzard?
Demande Reggie.
Dans ce vent et ce froid? Je pense. J'ai déjà fait ce genre de trajet dans des conditions similaires dans les Alpes. Et sans les cordes fixes que nous avons installées sur le mur de glace et le glacier. Je prendrai de nouvelles batteries pour ma lampe de mineur qui pourra me servir au retour dans l'obscurité.
Très bien, dit le diacre. Je suggère que nous suivions le plan de Jean-Claude pour demain. Nous restons ici pendant les prochaines 24 ou 36 heures, mais pas davantage. Qu'en pensez-vous tous?
Une fois encore, je m'étonne qu'ils soumettent la décision à notre approbation. Je me dis que cela prouve à quel point le diacre respecte notre opinion.
Je suis d'accord, dit Reggie. Nous sommes samedi. Si le vent et la neige ne se sont pas suffisamment calmés d'ici à lundi matin, je vote pour qu'on redescende tous, au moins jusqu'au camp 2. Les Sherpas n'auront qu'à nous faire de la place ou redescendre au camp de base.
Demain, dimanche, c'est le 17 mai,
murmure J.C. Le diacre le dévisage sans rien dire.
Le jour que vous aviez prévu pour notre assaut du sommet, Richard.
Pour toute réponse, le diacre passe la main dans sa barbe mouillée. Une partie de la glace a fondu. J.C. commence à enfiler ses couches de vêtements.
Je vais chercher Tenzing et Teshbir et nous nous mettrons en route. Reggie, vous faites ce que vous voulez, mais je vous conseille de vous installer dans cette tente jusqu'à ce qu'on soit plus nombreux ici. La moindre chaleur corporelle supplémentaire est bonne pour la cause. Les Sherpas que je ramènerai pourront prendre l'autre tente.
Vous avez raison,
dit-elle.
Je vais chercher mes affaires.
J'en profiterai pour prévenir Tenzing et Teshbir qu'ils partent avec vous. Je reviens dans une minute et... Oh, je vais apporter un livre. La maison d'Apprevant de Dickens. J'espère qu'il ne court aucun risque.
Le diacre affiche un sourire un peu triste et se gratte la barbe. Le lendemain, je suis réveillé à 3h30 du matin par la vibration du petit marteau de ma montre contre mon cœur. Immédiatement, je prends conscience qu'il manque quelque chose. Le vent est tombé. Il n'y a pas un bruit hormis la respiration rauque des autres. Les parois de la tente sont recouvertes du givre créé par nos haleines, mais elles ne bougent plus. L'air est très, très froid. J'ai beau tendre l'oreille, je n'entends ni le vent ni le bruit de fond permanent que formait précédemment la neige tombant sur la toile. Après avoir enfilé mes bottes et ma parka de duvet aussi discrètement que possible, j'essaie de sortir de la tente sans réveiller personne. Jean-Claude est revenu après la nuit tombée, peu avant 10h du soir. Il nous a raconté qu'il avait confié Tenzing à 4 Sherpas au camp 2, à charge pour eux de descendre le malade au camp de base, puis il a presque vidé les 2 thermos d'eau que nous avions préparés pour lui et il s'est endormi aussitôt après s'être glissé dans son sac de couchage. Dehors, je m'étire et fais quelques pas prudents. Si je m'éloigne trop des tentes recouvertes de neige, je risque de m'aventurer en territoire de crevasses ou trop près du bord du col. Une fois sûr d'être en sécurité, je regarde en haut et tout autour de moi. Quelle vue incroyable! La lune est décroissante, mais son brillant quartier et l'infinité d'étoiles suffisent à faire scintiller les pentes neigeuses et le sommet du Changtse derrière moi, comme s'ils généraient leur propre rayonnement froid. En contrebas, de lourdes masses nuageuses tourbillonnent dans la lumière laiteuse et montent comme de la crème fouettée à 60 ou 70 mètres sous le col nord. Le camp 3 et tout ce qui se trouve en dessous est dans la purée de pois, expression que j'entendrai plus tard dans la bouche de mes amis pilotes de biplan. Mais ici, le ciel qui illumine la lune et les étoiles est parfaitement dégagé. Plus loin au nord, émergeant des nuages tels la crête d'épines dorsales d'un grand saurien brillant, j'aperçois une procession de pics de plus de 8000 mètres s'éloignant vers le Tibet et peut-être même jusqu'à la Chine.
Une vue impressionnante, n'est-ce pas?
Je manque de tomber dans le précipice en entendant le doux son de la voix derrière moi. Le diacre se tenait là depuis le début.
Depuis combien de temps êtes-vous réveillé?
Dis-je dans un murmure.
Un certain temps.
C'est la mousson qui s'accumule là, en bas?
L'ombre du diacre secoue la tête.
Souvenez-vous, la mousson arrive par l'ouest et le sud.
Ça, c'est la tempête venue du nord qui nous a empoisonnés ces derniers jours. Il y a toujours une période de mauvais temps venant du nord jusqu'à une semaine ou 10 jours avant la mousson. Cette semaine-là offre la meilleure météo de l'année pour gravir l'Everest. Une thermos à la main, il me tend une tasse qu'il vient de remplir. Je bois avec gourmandise, de l'ovomaltine tiède. Vous croyez qu'on est dans cette fenêtre de beau temps? Difficile à dire. Mais je pense que nous devrions pousser jusqu'au camp 5 aujourd'hui. Je sirote mon chocolat et hoche la tête. Vous voulez que j'aille réveiller les autres? Non, laissez-les dormir, murmure le diacre. Jean-Claude est vanné. Reggie a mal dormi. Je l'ai entendu prendre de l'oxygène plusieurs fois. Je commencerai à préparer le petit déjeuner pour vous, les grimpeurs, dans 1 heure. Vous pouvez dormir jusqu'à 5 heures. Vous ne venez pas au camp 5? Je ne crois pas. Il s'adresse à moi, mais ses yeux ne cessent d'examiner l'arête nord, l'arête nord-est et le sommet de l'Everest illuminé par la lune. Avec un peu de chance, les 2 tentes mythes que nous y avons plantées seront encore là à vous attendre. Reggie, Jean-Claude et vous pourrez vous installer et vous préparer pour la recherche de Bromley. Pour qu'elle soit efficace, je crois que nous devrions également établir un camp 6 le plus près possible des 8200 mètres. Je descendrai quand vous vous mettrez en route et je reviendrai plus tard dans la journée avec Passang et les tigres les plus costauds. Nous utiliserons la bicyclette de Jean-Claude pour hisser les charges lourdes sur le col nord. Puis nous nous préparerons un nouveau chargement avec des vivres, des appareils à oxygène et au moins 1 tente pour le camp supérieur que nous vous apporterons demain matin. Lundi.
C'est aujourd'hui le jour de l'assaut, dis-je tout bas. Le 17.
Je vois les dents du diacre briller au clair de lune. S'il n'y avait pas cette recherche, ce serait possible. Nous pourrions continuer de grimper tous les 4 et tenter d'atteindre le sommet avant de redescendre au camp 5 avant la nuit.
Mais ça ne va pas se passer ainsi. Je croyais que vous, que nous 3, allions vaincre le sommet, puis entamer les recherches après. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis?
L'ombre secoue sa tête encapuchonnée. Je pourrais continuer de mentir à Lady Bromley Montfort en disant que nous chercherions son cousin en redescendant du sommet. Mais je suis déjà allé au-dessus des 7900 mètres, Jake. Elle avait raison à Darjeeling. Dès qu'on s'aventure sur les arêtes supérieures de l'Everest, cette maudite montagne nous prend tout. Un jour, on est bourré d'adrénaline et prêt à aller en haut quoi qu'il en coûte. Le lendemain, les Sherpas doivent nous aider à redescendre en titubant au camp de base. On est vidé de toute énergie, à moitié aveugle. On a le cœur gonflé, les doigts et les orteils gelés. J'ai été à 2 doigts de lancer l'assaut aujourd'hui. Mais j'ai promis à notre ami que nous chercherions Percival. Et nous allons y consacrer 2 jours avant de décider s'il nous reste assez de force pour tenter le sommet. Je lève les yeux vers l'arête nord, noire et neige, qui, tel le dos d'une baleine, se dresse au-dessus de nous. Je n'ai pas apporté d'appareil à oxygène et j'ai du mal à respirer rien qu'en me tenant là debout. D'un côté, je suis soulagé de ce répit. Je n'ai pas envie de disparaître dans ces montagnes comme Mallory et Irvine l'année dernière. Mais aussi amèrement déçu. C'est peut-être la fin de nos rêves de conquête. Pourquoi le diacre a-t-il changé d'avis si tard? Notre objectif a toujours été d'escalader cette fichue montagne.
Ça fera beaucoup de temps passé au-dessus de 8000 mètres, dis-je finalement.
Probablement trop. Il paraît reconnaître qu'il a décidé de gâcher notre meilleure chance de gravir l'Everest. Mais il ne me dit pas pourquoi. Surtout comme ça, au dernier moment. Je vois l'arête nord-est briller comme une route de diamants loin au-dessus de nous, une route qui monte au sommet, et pas un souffle des habituels vents mortels. Je parviens finalement à demander «
Vous croyez qu'on a des chances De retrouver Lord Percival?
Non. Pas une chance sur 100, à mon avis. Mais nous avons promis d'essayer. Nous avons pris l'argent de Lady Bromley.
Je n'ai rien à opposer à ça. Je lui rends ma tasse vide qu'il revit sur la thermos.
Allez redormir un peu, Jake. Prenez quelques bonnes bouffées d'air anglais, restez au chaud et reposez-vous. Je vous réveillerai quand le petit déjeuner sera prêt.
Avant de retourner dans la tente, je jette un dernier coup d'œil au paysage féerique. L'Everest, entouré de plus petits pics brillants dans la lumière des étoiles, les nuages rassemblés sous le niveau du col nord, un infime panache de neige au-dessus du sommet vers lequel nous allons grimper dans quelques heures. Pour la première fois depuis que nous avons quitté l'Angleterre, je me dis avec une réelle assurance et loin de toute fanfaronnade abstraite, nous aurions pu gravir cette satanée montagne aujourd'hui. Nous le pourrons encore ces prochains jours si nous ne perdons pas trop de temps à rechercher un mort. C'est possible.